La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans la troisième mi-temps Sud Radio, le podcast rugby pour revenir sur le week-end que vous avez vécu à l'écoute de Sud Radio. Comme d'habitude, Quentin Cabanis, Marius Louis-François, bonjour messieurs.
Bonjour,
bonjour.
Super.
Bonjour. Et pour Marius, ce dernier numéro, on a, c'est simple, on a pris le meilleur. François Trio est avec nous.
Vous avez sorti Hibernatus.
Bonjour à tous.
Bonjour François.
Évidemment, dernier épisode de la troisième mi-temps de Sud Radio puisque la saison s'est terminée, s'est achevée samedi soir au Stade de France avec François Trio et Daniel Herrero aux commentaires. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de la rencontre sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, si vous jamais voulez revivre cette finale. Toulouse-Montpellier, c'était au Stade de France dans des conditions, François, chaleur, orage et une finale un peu particulière.
Orage et désespoir ? Non. En tout cas, c'était, il y avait une certaine, c'était étouffant. Hein. Et en tout cas, chapeau, c'est vrai aux acteurs parce que c'était pas évident. Je pense que ça a pesé, notamment sur la deuxième mi-temps des Toulousains. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un petit coup de barre ou un petit coup de chaud. Voilà. Mais bon. Et puis il y a eu cette interruption qui a quand même été une première dans l'histoire de la finale du championnat. 13 minutes. Voilà. Moi, ça m'a paru plus long. Non pas parce que j'étais à l'antenne avec Quentin Cabanis.
Ah, j'ai trouvé ça court. Mais c'est parce que tu étais parfaitement comblé.
Mais en tout cas, c'était une mesure de prudence. On peut saluer aussi le calme des spectateurs. Oui. Mais c'est vrai que c'était une finale accrochée, alors qu'il y avait 25 à 6 à la mi-temps. Ça, c'était une curiosité quand même.
Ouais, c'est ça. On s'attendait pas forcément, Quentin, plus de 24 heures après. C'est quoi ? C'est Toulouse imbattable et surtout des regrets peut-être éternels pour ces Montpelliérains qui sont pas passés loin, peut-être pas assez tueurs dans les 22 derniers mètres.
Bah ouais, non mais après imbattable, je sais pas, parce que au final ils se sont fait peur en seconde période les Toulousains, mais ils ont forcé de constater fait une première période de grande qualité pour pouvoir mener quand même aussi largement, et puis bah on s'attendait à ce que Montpellier réagisse en seconde période, ou on espérait finalement que Montpellier réagisse en seconde période. Ils l'ont fait très tôt avec un essai à la 42e, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils sont revenus avec d'autres intentions, donc il y aura sûrement des regrets côté montpelliérain d'avoir démarré le match trop tard finalement. Ça n'a pas été la gifle annoncée par beaucoup. Ces montpelliérains ont su être résistants et ils ont peut-être pas assez profité aussi, par exemple, de l'indiscipline toulonnaise, parce qu'il y avait toulousaine, pardon, parce qu'ils ont quand même concédé 13 pénalités les Toulousains, ce qui est quand même pas souvent dans un match à ce niveau-là pour eux.
Et c'est rare de voir les Montpelliérains, c'était leur force toute la saison de savoir marquer quand ils rentraient dans les 22 derniers mètres. Et là, ils ont échoué à plusieurs reprises, trop d'occasions manquées. On va forcément repenser à cette passe pas faite par Tyler Duguay, à un moment donné, alors qu'il y a un décalage 4 contre 1 derrière, ou alors cette touche à la 73e lobée sur Béconnier qui aurait pu offrir 5 dernières minutes de feu s'ils avaient marqué sur cette action-là.
Oui, oui, tout n'a pas été parfait, on va dire, côté Montpelliérain, mais les Montpelliérains, on va dire, ont construit leur saison un peu sur un rugby où leur défense était la force, où ils jouaient un peu en contre, et finalement ils ont été contrés à leur propre jeu, on va dire, et ils ont eu plus le ballon que les Toulousains au final. Et ben ils ont peut-être aussi commis des erreurs à cause de cela, par manque, on va dire, d'habitude,
de repères,
et aussi par la force des Toulousains qui sont capables de s'adapter à toutes les situations, de construire quand il le faut, d'avoir la virtuosité par des joueurs exceptionnels, et puis aussi d'avoir cette capacité défensive. Il y a eu 4 situations quand même en zone de marque où ils ont réussi à contre-roquer de façon incroyable, avec, alors certains disent que Willy c'était à la limite, etc., etc., mais enfin collectivement cette force mentale là est quand même vraiment à souligner, à saluer.
Ouais, pour rejoindre ce que dit François à propos de Willy, on dit à la limite, mais à la limite c'est ce qu'il faut, hein, faut juste pas la franchir. Là parfois sur les réseaux sociaux notamment, ça a fait pas mal réagir sur le fait qu'il arrivait parfois sur le côté peut-être pour gratter ses ballons, mais le résultat est qu'il a gratté 4 ballons sur ce match, qu'il a réussi 17 plaquages et qu'il a permis à son équipe en grande partie de s'imposer. C'est lui qui a été joueur du match sur la finale, c'est lui qui a été joueur du match sur la demi-finale aussi.
Et en plus, donc, il a soulevé le bouclier.
Et en plus, il s'est permis d'appeler Antoine Dupont pour l'aider à soulever le bouclier. Peut-être que tout seul, il pouvait pas, je sais pas.
Petite question pour vous, messieurs. Est-ce que vous savez le dernier Anglais qui avait soulevé le bouclier en tant que capitaine ?
Ah, Mercer, peut-être ? Ah, il était pas capitaine en 2022.
Non ? Johnny Wilkinson,
le dernier.
Oui, c'est trop proche ça. Moi je pensais qu'il y avait un truc, on allait plus loin. Voilà.
Non, on est vraiment dans le temps présent, dans le temps proche. Le Toulousain Marius Louis-François, est-ce qu'il a tremblé, lui qui voyait une large victoire toulousaine, est-ce qu'il a eu peur de ces Montpelliérains?
Ouais, très honnêtement, surtout notamment sur la deuxième période en fait, parce qu'effectivement à la fin de la première, 25-6, Toulouse déroule, il y a 3-4 actions, il marque 3 essais, c'est ultra réaliste, il y a quelques erreurs, d'ailleurs Montpellier-Rennes, notamment le premier essai de Movaca, où c'est quand même une erreur assez dommage pour les Montpellierens sur cette touche, ils se font prendre hyper rapidement. Après la suite de l'action, voilà, c'est à la Toulousaine.
Ah, le réalisateur de la rencontre s'est fait prendre.
À la fin de passe, tout le monde a marché dedans. Hein.
Exactement, mais non, j'ai eu assez peur sur cette deuxième période, et notamment le premier essai de Picardo, ça relance directement. Là, pour ne rien vous cacher, j'étais en train de me ronger les ongles terriblement avant la touche à la 73e, puis finalement quelques erreurs Montpellierens sur la fin dans les moments clutch. Et c'est ce que je pense qu'ils vont pouvoir regretter, les hommes de Codulo.
Et sur le bel, est-ce qu'il ne peut pas y avoir essai de pénalité quand il prend le carton jaune en ayant sorti directement le ballon du terrain? Avant, il retient quand même son adversaire par le maillot.
Jordan Ouellet qui était le talonneur décale également sa course en début.
Le ballon, le rebond est pas favorable.
Donc du coup, en vrai, si ça se siffle, c'est pas choquant. Si ça se siffle pas, t'es pas outré non plus, je pense.
Ouais, on est dans l'entre-deux. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des joueurs. On a discuté d'ailleurs avec Cyprien et Lenny Nouchi en zone d'interview après le match, et ils n'invoquaient absolument pas l'arbitrage. Hein. Ils disaient voilà, ça fait partie du jeu. Enfin, il y avait une très grande sportivité, et c'est là qu'on voit d'ailleurs que c'est un immense joueur, un immense capitaine, et malgré son jeune âge. Mais c'est vrai qu'il a jamais, en tout cas, évoqué l'arbitrage, alors que sincèrement, il y a 2-3 situations qui peuvent prêter à discussion.
Et Codulo non plus l'a pas fait en zone d'interview non plus. D'autres Montpellierens, il y avait Erdosio et Auguste Cadeau qui sont passés. On sentait qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout ce qui avait été sifflé ou pas sifflé, mais ils s'étaient retenus également.
Ils sont restés très dignes, quoi.
Très dignes jusqu'au bout. Et en effet, Marius, François, on avait fait un petit pari. Ce sera à la fin du podcast. Tu avais parié que Toulouse gagnerait avec plus 20 points sur cette finale. Et si c'était pas le cas, tu devais raser la moustache. Et donc Quentin Cabanis se fera le plaisir de raser cette moustache qui tombera.
C'est moi le dans plus avec une tondeuse, évidemment.
Vu que tu l'utilises tous les 2-3
matin. Oh, non, mais c'est fini la tondeuse, hein. Tu sais, on est passé au rasoir. Hein.
Bon, il faut faire un peu sur le côté quand même. Oh. Mais c'est donc 28-20, victoire de Toulouse face à Montpellier, champion de France 4 années à la suite. Est-ce qu'ils vont aller chercher le record 5? Ce sera la réponse la saison prochaine. Mais ça permet, dans ce podcast, de faire le bilan de cette saison de top 14 que vous avez vécu sur Sud Radio avec Quentin, avec François, avec Marius, avec Alexandre Priam également, avec Daniel, Jean-Baptiste Elissa, des fils Panguero. Le bilan, on va donner pour vous ce qui est le meilleur avant, le meilleur trois quarts, la révélation, le flop. Alors, c'est pas un joueur, mais plus une équipe qui a déçu cette année, et également le meilleur joueur de cette saison 2025-2026. On va commencer par le meilleur avant de cette saison. On est uniquement sur le top 14, messieurs. On va pas prendre en compte tout ce qui est Champions Cup. Ça peut, ouais,
ça
peut vous
ça
aider.
Ça changerait beaucoup pour les trois quarts.
Ça peut changer certaines choses, mais en tout cas, voilà, on est sur le top 14 que vous avez vécu en intégralité sur Sud Radio. Le meilleur avant, François, toi, c'est un avant qui n'a pas vu les phases finales, mais qui a vu, qui retrouve l'équipe de France.
Ouais, c'est Jefferson Poirot, parce que même si tu dis pas de Champions Cup, pardon, mais on est quand même un peu obligé d'évoquer l'UBB et la Champions Cup, en ayant battu quand même le champion de France, en ayant fait devant une énorme prestation en quart de finale mi-avril pour sortir Toulouse à ce moment-là. Moi, je crois que voilà, c'est ce qu'il a manqué ensuite sur la fin de saison au Bordelais, c'est-à-dire cette fraîcheur, certains blessés, Coleman, Tamaifuna, voilà. Mais Jefferson Poirot est le symbole pour moi à la fois du temps qui passe à l'UBB, de la progression de cette équipe et du jeu pratiqué. Puis lui aussi, à titre personnel, il était, on va dire, hors équipe de France. Il avait choisi de se consacrer 100% à son club. Il a été rappelé et je trouve que c'est vraiment que justice, parce que ses performances au niveau européen, quand on est capable de rivaliser avec le champion de France, le champion d'Angleterre, le vainqueur de l'URC, le Leinster, c'est-à-dire l'équipe d'Irlande, je trouve que effectivement d'aller faire une petite tournée dans l'hémisphère sud, c'est pas mal et il le mérite.
Il va être titulaire normalement, en plus titulaire pour le match,
et c'est mérité. Et en plus, je trouve qu'il a pris une dimension dans le leadership qui est quand même assez impressionnante.
Et on le sent plus apaisé, on a l'impression qu'il est plus entouré également avec d'autres leaders comme Maxime Lucu qui l'aide vachement.
Il y en a qui prennent la lumière à côté. En tout cas.
Et donc, du coup, c'est normal de récompenser Jefferson, Poirot. Toi, Quentin,
on a toujours aimé les premières lignes à Bordeaux.
Oui. Ah,
voilà. Donc, c'est après, ça aussi. Il faut rendre hommage au pilier gauche de l'UBB. Ah. C'est à BBG, Damier.
Après, si on avait parlé aussi avec la Champions Cup, je trouve que Boris Palu aussi a fait une saison qui a souligné côté bordelais. Mais moi, je veux aller sur un champion de France pour les avant, le capitaine du Stade Toulousain. Jack Willis, 6 essais cette saison, 23 matchs sur 28 disputés. Voilà, meilleur gratteur du championnat.
Je veux pas s'embrouiller.
Non, mais meilleur gratteur du championnat cette saison, meilleur joueur de la demi-finale, meilleur joueur de la finale. Donc pour moi, je pense qu'il y a une forme de logique à récompenser Willis en tant que meilleur avant sur la saison et pourquoi pas même meilleur joueur.
C'est incroyable,
après
il est à 4 sur 4 depuis qu'il est à Toulouse. Il n'a pas connu une saison sans glaner un titre de champion de France.
Après, il est arrivé aussi dans une équipe qui fonctionne bien avec des joueurs exceptionnels. Tu vois.
Il aurait pu. Parfois, il y a des joueurs étrangers qui arrivent à Toulouse et ça colle pas. Lui, il est même devenu capitaine, il parle français, il est vraiment le leader
son seul défaut, finalement, c'est d'être anglais. Hein. Parce que. Après, c'est quoi, dans 2-3 ans, on a le droit de le prendre?
On le prendrait.
En équipe de France.
On le prend en équipe de France, François, Jack Willis, si on peut.
Je trouve qu'il y a beaucoup de bons troisième ligne dans notre championnat.
Il y a du monde à ce poste, mais voilà, il y aura les frères Willis dans le championnat la saison prochaine, puisque son frère va rejoindre l'UBB.
Tom Willis, ouais.
Qui a été élu meilleur joueur de première chip, donc ça va être sympa de voir les deux s'affronter l'année prochaine.
Il était déjà venu, donc
mais
voilà.
Il revient.
L'un des regrets des Bordelais, c'est de ne pas avoir fait les deux frères au même moment.
Ça aurait été pas mal.
Voilà, parce que c'était dans les cartes.
Ça aurait pu changer certaines choses. Marius, toi, tu pars sur quoi?
Alors moi, c'était le choix le plus compliqué de tous les choix qu'on a dû faire, mais finalement, je vais partir sur Lenny Nouchi en tant que meilleur avant. Comme vous l'avez dit, c'est un leader né malgré son jeune âge. Il a été un des grands artistes de cette saison magnifique côté Montpellier-Rennes. Et puis voilà, tout simplement, il est omniprésent partout, il fait mal à l'impact, défensivement, rien à lui reprocher, même là, après le match, encore une fois, un état d'esprit super. Pas remettre en cause l'arbitrage, je l'ai trouvé sur ses discours d'après-match assez lucide, alors que il pourrait avoir une déception énorme et puis l'émotion qui prend en fait le dessus, et non, il reste fidèle à lui-même et saison exceptionnelle, donc pour moi ce sera Lenny Nouchi le meilleur avant.
Et de bonnes entrées avec l'équipe de France,
bien sûr, exactement,
où il a été assez impactant dans son rôle de troisième ligne.
Et il part notamment, il rejoint avec 9 autres joueurs finalistes faire la tournée
du championnat. C'est un cadeau avec lui.
Exactement, et Lenny Nouchi qui récompense la saison montpellierenne, on ne les attendait pas forcément finalistes, non. Il gagne également la Challenge Cup, c'est quand même une saison.
Ah oui, c'est une belle saison.
Une belle saison du côté de Montpellier. Le meilleur trois quarts, on va faire dans le sens inverse. Marius, ton meilleur trois quarts, toi, c'est la surprise du côté de Clermont.
Ouais, l'énorme surprise, Harry Plummer, le demi d'ouverture de l'ASM, qui est meilleur réalisateur de la saison avec 295 points et qui s'est parfaitement adapté au jeu clermontois et à la philosophie de Christophe Furios. Et c'est pas toujours gagné, généralement, quand il y a des joueurs comme ça de l'hémisphère sud qui viennent. Parfois, c'est aussi des gros flops.